Nous sommes aujourd'hui au château de Baleine, sur la commune de Villeneuve-sur-Allier, un château connu pour son arboretum. Ce château dont vous êtes l'heureuse propriétaire, Louise Courtex-Adanson. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce château, il appartient donc à votre famille depuis déjà quelques années, quelques générations. Avez-vous quelques éléments sur son historique, sur son origine? Parce que Baleine, ce nom... est bien mystérieux.
Oui, tout à fait. Baleine, ça s'écrit B-A-L-A-I-N-E, bien que pendant plusieurs générations, ça s'est écrit de multiples façons, avec deux L, avec E-I. Mais après des recherches assez approfondies, on a découvert qu'ici, c'était la partie de la Sologne la plus pauvre, et il y poussait beaucoup de genêts, des genêts qui servaient à faire des balais, d'où baleine. Voilà.
Rien à voir avec l'animal.
Rien à voir avec l'animal, bien que sous le porche, derrière le château, il y ait des ossements de baleines et de cétacés qui ont été ramenés par le fils d'Aglaé Adanson, donc qui appartenait à une collection qu'il avait à Sept.
Alors l'origine de cette construction, qui reste relativement imposante, en avez-vous quelques éléments? Comment tout a démarré ici, ce domaine de baleines?
Alors au départ, Aglaé Adanson, elle était passionnée de plantes. Il faut dire qu'elle était la fille du botaniste Michel Adanson. Michel Adanson lui doit notamment la découverte du baobab du Sénégal, qui porte d'ailleurs son nom, comme beaucoup de plantes portent le nom de ceux qui les découvrent. Et donc, il a eu un garçon qui est décédé et il s'en est mal remis. Il a eu sa fille, Aglaé. Cette fille à laquelle il s'est beaucoup attaché parce qu'il voulait lui apporter beaucoup de connaissances, mais c'était une fille d'une très grande intelligence. Il n'avait pas beaucoup de temps à s'occuper ni de sa femme ni de sa fille, Michel Adanson. Donc, parce qu'il partait sans arrêt en expédition, il faisait partie de l'académie aussi à l'époque, et il faisait beaucoup de recherches sur la classification des plantes. Aussi, il a confié l'éducation d'Aglaé à un ami de la famille qui s'appelait Monsieur Girard de Busson. Ce monsieur lui a donné une excellente éducation. Il l'a envoyé au couvent des Dames du Calvaire pour étudier, qui se trouvait donc ce couvent près des jardins du Luxembourg déjà. Ensuite, pendant la Révolution où Paris était très mouvementé, il l'a envoyé en Angleterre étudier la peinture et la musique. Et là, elle a été fort influencée par les paysages anglais. C'est à son retour en France qu'elle s'est complètement adonnée à la passion des plantes, puisque à l'époque était créée la Société Royale d'Horticulture de France. Elle fut un membre éminent. Et donc, c'est aussi l'époque où M. de Busson lui signifia, à partir de 1803, disons, qu'il lui lèguerait toute sa fortune et qui se situait entre Nivernais et Bourbonnais, c'est-à-dire 500 hectares, de châteaux, des fermes, etc., des étangs. Donc, Aglaé, il lui a dit qu'elle pouvait déjà commencer le rêve de sa vie, c'est-à-dire la création d'un jardin expérimental. Ce qu'elle fit. Et donc, elle a commencé ses premiers voyages de Paris à la province pour déjà faire beaucoup de paperasse, bien sûr, pour essayer de faire des échanges de terres, pour regrouper le domaine, pour aussi choisir le lieu de son jardin expérimental. Et elle a choisi plus particulièrement Baleine parce que c'était une zone marécageuse, humide, boisée, et la plus propice à la création d'un jardin. Bien que le château du XVIe était en ruine, elle habitait une ferme attenante à l'époque et elle voulait déjà se consacrer complètement à la création du jardin avant de restaurer bien sûr la maison.
Alors cette maison a été restaurée, elle a été agrandie, elle a été embellie au goût de l'époque on imagine.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des douves tout autour, il y avait des écuries devant, une cour fermée. La toiture était en tuiles, c'était pratiquement une propriété qui vivait en autarcie, avec les étangs, la ferme, etc. Et c'est qu'à la fin de sa vie, à partir de 1840 à peu près, quand elle a vraiment beaucoup consacré de temps à son jardin, qu'elle a pensé à faire reconstruire le château. Mais il faut dire qu'elle était aussi aidée par son fils, parce qu'elle avait deux enfants, dont avec qui elle vivait parce qu'il ne s'est jamais marié et qui est resté près d'elle, et un deuxième enfant qui était député de l'Hérault et maire de Sète, passionné de plantes tous les deux bien sûr, de conchyliologie, de sciences. Elle a fait venir un architecte, elle a fait raser le bâtiment, complètement les écuries, elle a fait redresser les douves avant, elle a fait fermer les douves arrière, elle a fait repartir les douves à l'arrière, d'abord par un pédiluve et par des douves qui vont dans le parc, et puis elle a fait reconstruire ce bâtiment en briques bichrome, un petit peu bourbonné, avec des chiens assis, un peu plus bourguignon. Et donc, elle voulait une maison pratique, sans prétention, parce que ce n'était pas quelqu'un qui recevait. Donc, elle se consacrait qu'à ses sciences, son travail et ses passions.
Alors, ce jardin expérimental qui se trouve donc autour de ce bâtiment était donc destiné à son seul plaisir. Il n'était bien évidemment pas, comme aujourd'hui, ouvert au public.
Ah, pas du tout. Pas du tout, sauf qu'elle faisait partie de beaucoup de sociétés horticoles aux alentours. Elle était vraiment présidente de toutes les sociétés horticoles alentours, Nivernais, Bourbonnais. Et donc, elle invitait des personnes à venir voir son jardin, elle allait voir d'autres jardins, elle faisait des échanges de plantes, elle retournait sur Paris acheter des plantes aux premières pépinières celles qui existaient, puisqu'auparavant, c'était des pépinières plutôt forestières pour reboiser la France. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où tous les bateaux qui arrivaient des pays lointains ramenaient des épices, des plantes, etc. Ces plantes arrivaient au Muséum national d'histoire naturelle et ensuite étaient redistribuées aux sociétés horticoles. Et c'est grâce à cela qu'elle a pu bénéficier de tous ces végétaux qui arrivaient et qu'elle a pu les expérimenter ici à Baleine.
Louise Courtex à Danson, vous êtes liée à cette personne, à ce personnage. Vous êtes une descendante, une parente à cette personne. Comment cette propriété vous est venue jusqu'à vous-même?
Ah ben disons que c'est de génération en génération. Tous ont été plus ou moins passionnés par les plantes. Évidemment, il y en a qui étaient plus passionnés par la chasse, quelques générations. C'est vrai que je suis tombée brutalement dedans, ce jardin. En fait, je faisais des études et mon père est décédé brutalement, donc j'ai dû reprendre le flambeau. Au début, il n'était pas du tout ouvert au public. Ce n'est qu'à partir de 1985 qu'il a été très largement ouvert au public. Mais auparavant, c'était quelques dimanches du mois de mai, puisque Baleine est surtout réputée pour les floraisons d'azalées, rhododendrons. Moins maintenant, puisqu'on a agrandi la panel de floraisons, juillet, août, septembre, bien sûr, même avril et même l'hiver, bien que le parc ne soit pas ouvert vraiment en hiver, sauf à ceux qui ont des cartes annuelles qui peuvent venir en nous téléphonant. Voilà. Donc, je me suis donné un an sabbatique pour réfléchir et puis je me suis lancée dans l'aventure. Quand on est jeune, on se lance toujours dans des aventures pas possibles, quoi. On ne réfléchit pas trop. Puis c'était une époque, 1971-1972, où la vie était quand même plus facile, entre guillemets. Et on avait moins de besoins, mais moins d'exigences aussi, moins de contraintes aussi. Donc, c'était complètement différent.
Néanmoins, donc, ce parc, au départ expérimental, arrive jusqu'à nos jours sans avoir disparu. C'est quand même une chance.
Oui, chaque génération a contribué à le préserver, à l'enrichir par des végétaux nouveaux, vraiment à le conserver. Et ce n'est qu'en 1993 qu'il a été classé monument historique, y compris face à des toitures de toutes les fabriques qu'il compose. Et il a été également classé jardin remarquable. Et il faut dire qu'il est resté avec le dessin intègre de l'époque d'Aglaé, mis à part que, à l'époque d'Aglaé, son jardin était beaucoup plus étroit. Et il s'est agrandi en largeur, bien sûr, de génération en génération. Moi-même, après la tempête de 1999, j'ai agrandi d'un hectare et demi et plus 2 hectares d'une autre partie. Maintenant, je m'arrête parce qu'il faut savoir aussi être raisonnable. Et puis, un parc aussi vieux qui a plus de 200 ans, il faut le régénérer intérieurement. Donc, depuis 2 ans, c'est ce que l'on fait. On attaque vraiment le renouvellement du parc par l'intérieur à cause des tempêtes, à cause des cataclysmes aussi. On est obligé de renouveler. Les arbres sont vieux et ils sont appelés à disparaître ou à, bien sûr à mourir. Et il faut renouveler toutes ces collections en conservant toujours l'esprit, la créatrice, l'idée du parc et jardin à l'anglaise, mais aussi le dessin par lui-même, garder les perspectives, garder le dessin tel qu'il est, tous les aqueducs, les fossés, fausses rivières, bassins tels qu'ils sont et les entretenir aussi.
Est-ce que parmi ces milliers d'espèces qui sont présentes ici dans le jardin, vous en avez quelques-unes auxquelles vous êtes le plus attachée?
Oh, j'ai beaucoup de plantes auxquelles je suis attachée parce que en 40 ans d'expérience sur le domaine, j'ai collectionné d'abord des magnolias, ensuite j'ai collectionné des chênes, ensuite j'ai collectionné des érables du Japon, ça c'était mon dernier dada parce que ce sont des plantes qui sont belles toute l'année au débourrage de printemps, elles ont des couleurs chatoyantes dans les roses rouges.
rouge, bronze, ou vert tendre. Et puis, la deuxième pousse d'été est belle aussi. Les couleurs d'automne sont extraordinaires. Hein. Tous les érables du Japon sont fabuleux. Et puis, là, récemment, on a introduit aussi des conifères, parce que plus personne ne veut planter des conifères depuis la sécheresse. Donc, il faut quand même, on sert aussi de conservatoire des végétaux qui sont appelés à disparaître. Donc, il faut aussi garder ce côté conservatoire de plantes. Et donc, mon végétal préféré en ce moment, c'est le sassafras. Parce que tout dans le sassafras sent la vanille et l'orange. Et j'aime beaucoup les végétaux ou qui sont parfumés ou qui ont un goût particulier ou qui ont des feuillages particuliers. Le sassafras, ça a des feuilles polymorphes, donc plusieurs formes de feuilles sur le même arbre. Et donc, c'est un arbre qui a une très belle couleur d'automne, qui est très facile à cultiver, aussi bien petit arbre dans un jardin de ville qu'en série ou en bosquet dans un parc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien pour l'instant.
Alors l'arboretum, on imagine, on l'a compris, que c'est un énorme travail de gestion. Mais finalement, vous n'en avez pas eu assez, puisque vous êtes tourné vers le bâtiment cette fois, en développant des chambres d'hôtes.
Bah, disons, déjà il y a quelques années, on a exploité l'orangerie en salle de congrès, conférences, séminaires, location pour des mariages, puisque c'était un grand bâtiment qui était inexploité. Le lieu, le site même est propice à ce genre d'événementiel. On a également fait des expositions de sculptures, des expositions de peinture dans ces salles. On a fait du théâtre de jardin, de la lecture au jardin. Et je pense qu'un jardin, c'est un support. C'est un support. Et puis, l'aménagement de ces salles étant fait depuis quelques années, nous sommes que deux, trois maintenant à vivre dans cette immense demeure, bien qu'elle soit quand même raisonnable. Toute l'aile gauche de château a été aménagée pour faire des chambres d'hôtes. Parce qu'il y avait une demande, parce que c'est un lieu aussi qui est propice, qui est calme, où les gens aiment bien pouvoir en même temps faire le tour du jardin et pouvoir y dormir, se réveiller au chant des oiseaux et s'endormir au coucher du soleil, magnifique aussi.
Louise Courtex à Danson, vous nous avez fait découvrir aujourd'hui le château de Baleine, mais également donc son arboretum qui l'entoure, le château de Baleine qui se trouve donc sur la commune de Villeneuve-sur-Allier. On vous remercie pour cette visite.
C'est moi qui vous remercie et qui remercie tous les auditeurs également, puisqu'on a eu beaucoup d'auditeurs déjà lors de précédentes émissions qui sont venus nous voir et on est vraiment ravis de les recevoir du 1er mars au 30 novembre et puis pourquoi pas dans les chambres d'hôtes ou pour des amis qu'ils ont également.